Nous avions déambulé, dans notre précédente chronique, à partir de la proposition très sérieuse de Donald Trump de considérer l'Ukraine et la Russie comme deux enfants se battant à mort qu'il serait urgent, selon lui, de laisser s'étriper comme le feraient les adultes au jardin d'enfants avant d'intervenir, ou encore comme les arbitres de hockey sur glace qui laissent les joueurs échanger quelques bourre-pifs avant de s'interposer. Et nous en étions arrivés à considérer que, dans l'esprit de nos contemporains, tout jeu suffisamment mature, développé, semble devoir aboutir au statut de sport, le jeu à l'état adulte, pourrions-nous l'appeler, le jeu sérieux.
Dans l'esprit de nos contemporains, tout jeu suffisamment mature, développé, semble devoir aboutir au statut de sport, le jeu à l'état adulte, pourrions-nous l'appeler, le jeu sérieux. Et nombre de commentateurs de déclarer que le sport est le jeu le plus sérieux du monde, et probablement ont-ils raison. Ainsi, l'histoire du sport moderne a-t-elle pour matrice, par un renversement et raccourci étonnant, l'histoire des jeux avec un grand J. Or, l'histoire des jeux, dont on peut même se permettre d'oublier de préciser qu'il s'agit des Jeux olympiques, c'est-à-dire du sport, apparaît ainsi comme la réification aboutie par la modernité sportive, du jeu non réglé et non compétitif, que nous appellerons le jeu libre, le jeu de vivre ou vivant, principalement tourné vers l'imaginaire et la création, nous le disions, et qui n'est pas surdéterminé par la compétition. La philosophe Anne Boissière, dans un livre qu'elle a récemment consacré au jeu vivant, justement, revenant aux travaux de l'historien anthropologue des jeux Johann Huizinga, revient longuement sur l'observation que faisait ce dernier au tournant des 19e et 20e siècles d'un puérilisme qui aurait envahi la société de son temps, marquant paradoxalement un déclin du jeu. Et l'historien démettre cette hypothèse que le puérilisme pourrait résulter d'une confusion allant croissante entre le jeu et le sérieux. Alors, explique la philosophe, étayant son propos sur les travaux de son prédécesseur, le jeu non réglé, non compétitif, aurait été happé par l'univers du jeu réglé compétitif, lui-même investi par le monde de la vie sérieuse, celle orchestrée par l'ordre établi des adultes dominants. On ne saurait si bien définir l'histoire du sport moderne qui, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé d'obséder tous les pouvoirs, le sport apparaissant simultanément comme un outil d'éducation et d'embrigadement des masses des plus efficaces. Mais le plus important n'est pas là. Il repose probablement dans ces observations qui, travaillant ce qui caractérise les jeux réglés, compétitifs, nous les appellerions sport, tendus vers le désir de victoire et l'évitement de la défaite, aboutit à cette idée qu'ils sont happés en même temps qu'ils rendent ludique, acceptable donc, agréable même, jouissive, allons donc, la guerre, dans toutes ses dimensions, économique d'abord, politique ensuite, militaire enfin. Le sport, déterminé par la dimension sérieuse de la vie, apparaît alors comme la spectacularisation de la guerre. En conclusion, parce qu'il faut bien conclure, là où le jeu libre, empruntant principalement aux dimensions de l'imaginaire, de la création et par extension de l'art, tendu vers l'univers de l'enfance, semble orienté vers la paix, l'esthétique, la suspension de l'ordre d'un temps pré-réglé, pré-déterminé, le jeu réglé compétitif, à l'inverse, happé par la vie sérieuse, il faut entendre l'ordre politique et économique établi, apparaît comme l'émanation, l'accomplissement d'une métaphysique de la guerre. Partant de ces observations, nous pouvons commencer à jouer, justement, et à imaginer par où renverser un monde dans lequel la paix ne serait pas qu'un relâchement de la guerre, et ne saurait être donc autrement que paix armée. Si l'ordre de la guerre apparaît aujourd'hui comme la nature même de l'homme, au puérilisme ambiant qui contraint nos contemporains à ne faire que jouer à la guerre, opposons le sérieux d'une paix qui ne saurait être qu'émancipée de cette métaphysique de la guerre dans laquelle nous a plongé l'histoire. C'est l'intuition de Walter Benjamin, entre les deux guerres mondiales précisément, qui entrevoit la résistance au fascisme comme accueillir à la matrice de ce que l'histoire a ruiné, dans ce que l'enfant-monde porte d'enfance du monde. Faisons en sorte que les jardins d'enfants puissent nous permettre d'observer, paisiblement, jouer les enfants. Rendons-nous disponibles à l'enseignement de l'enfance du monde et détournons-nous de la métaphysique du match de hockey. Allez, monsieur Trump, encore un effort quant à nous. Enfants éternels, trouverons-nous d'autres issues pour faire grandir nos petits et leur foutre la paix que de les faire passer du jardin d'enfants au match de football ?